RMC Running,
Yoann Durand.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC pour tous les passionnés de la course à pied. On est toujours en direct sur la terrasse, en plein cœur de Chamonix, pour le plus grand événement trail du monde, je pense. Franchement, je vais pas vous mentir, mais c'est la première fois que je viens à Chamonix et j'ai jamais vu autant de monde dans une station de ski, même au 15 février. C'est, je vous dire, c'est plein. En plus, on est à côté du parcours, donc les athlètes arrivent les uns après les autres. On est sur l'arrivée de l'OCC et on en a chopé un au vol. Le premier français, c'est Clovis Chavreau qui sera avec nous dans cet épisode pour débriefer sa course. On aura également Gédéon Pocha, touche à tout, un peu ski alpinisme, un peu trail, un peu tout. Malheureusement, il n'a pas pu participer suite à une blessure. Et ben du coup, quand on parle de blessure, on invite un kiné, un ostéopathe, quelqu'un qui peut vous remettre d'aplomb. Et le meilleur ou l'un des meilleurs en France, c'est bien évidemment
Monsieur
Major Mouvement, que vous connaissez bien évidemment sur les réseaux pour toutes ses vidéos. Et il n'a pas ses bretelles aujourd'hui parce qu'il a participé lui aussi à la MCC. Tu vas nous débriefer tout ça. Donc bonjour à tous. N'oubliez pas en attendant de garder les bons réflexes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. RMC Running, c'est sur le club Strava. Notre compte Instagram, c'est pareil, c'est RMC Running. Abonnez-vous. Ça nous aide à grandir, laissez-nous des notes, on est content, ça booste notre ego. Mais surtout, ça nous aide à faire marcher ce podcast et à faire des bonnes émissions comme aujourd'hui.
RMC Running.
Donc comme je le disais, on est toujours sur cette terrasse. Bonjour Clovis, comment ça va?
Salut, ça va plutôt bien. C'est vrai que c'est un peu une première. En général, en fin de course, je finis toujours dans des états un peu pitoyables. Mais là, j'ai une meilleure mine que d'habitude, donc c'est plutôt pas mal.
Donc pour rappel, tu viens de terminer il y a un quart d'heure de ça. L'OCC, 19e place en 5h26 et 2 minutes. La course a été remportée par Jim Wensley en 5h00 et 35 secondes devant Christian Minaggio, un Italien, et Andrew Zwitek, un Polonais. Donc tu es premier français, comment ça s'est déroulé cette course?
Ça s'est déroulé un peu en gestion. C'est vrai que les formats de 50 km, je commence à y être un peu habitué. Et je commence à bien savoir un peu gérer mes débuts de course. Et c'est ce que j'ai fait avant de commencer à attaquer dans les premières bosses. Et c'est là où j'ai vu que je me sentais assez fort et que ça allait peut-être faire quelque chose de pas mal aujourd'hui.
T'as toujours été dans le top 20 ou ça s'est fait au fur et à mesure?
Alors non, pas du tout. Justement, c'est vrai que dans la première bosse à Champais et la redescente qui a suivi à Martigny, j'ai quand même bien temporisé. J'ai vu que ça partait un peu comme des brutes. Donc je pense que je devais être 40 ou 50e à Martigny. Et c'est dans la montée au col de la Forque que ça s'est débloqué et qu'il y en a qui commençaient déjà à coincer. Et où du coup, moi j'ai commencé à enclencher la deuxième.
Ok. Les résultats sont dingues parce qu'il n'y a eu que 20 secondes d'écart entre Jim Wensley et Christian Minaggio. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais sur 5 heures d'effort, 20 secondes d'écart, c'est monstrueux.
Ouais, c'est assez fou. Et puis surtout Christian, moi je ne le connaissais pas énormément jusqu'à ce que je fasse Monterossa cette année. Il a gagné devant moi justement à cette occasion et c'est là où je l'ai découvert. Et c'est vraiment une brute dans cette discipline.
C'est vrai,
Il m'avait mis 50 minutes, j'avais pas trop compris. Mon ego en avait pris un coup. Et là, j'ai un peu mieux compris, quoi. Parce que rivaliser avec Jim à ce niveau-là, franchement.
Jim, on l'a vu passer parce que, comme je vous le dis, on est en direct sur la terrasse et les coureurs passent à 3 mètres de nous. Et il faisait grise mine, hein. Il s'est employé parce que.
Je pense qu'il a pas dû s'économiser hein, face à un adversaire de cette taille-là. Personne ne le connaissait trop, je pense. Mais il a prouvé que, du coup, on pouvait aller titiller un peu la grande tige américaine, quoi. Et au final. C'est pas plus mal, quoi. Ça nous permet de voir Jim dans des états où on le voit pas forcément tous les jours. Donc
exactement, d'aller le titiller. La météo, on en parlait tout à l'heure, les conditions sont... Il l'a plu certainement un petit peu au départ. Mais ça, est-ce que ça a influencé le classement ou pas du tout?
Je pense que ça a bien influencé le classement parce que du coup, la stratégie d'hydratation et de nutrition était vraiment primordiale.
Okay.
C'est-à-dire qu'il y avait... Je pense qu'il y avait un taux d'humidité dans l'air qui était quand même assez important, ce qui faisait qu'on transpirait énormément.
Okay.
Mais on n'arrivait pas forcément à évacuer la transpiration. Mais du coup, l'idée là, c'est qu'il fallait quand même boire à foison Et parce que sinon, bah, derrière...
risque de crampes quand même.
Ouais, c'est ça. Et puis même, niveau nutrition, on sait que si on ne boit pas d'eau, on n'arrive pas à assimiler tout ce qu'on mange. Donc, on arrive rapidement à serrer le moteur. Donc, ouais, là, il fallait vraiment être vigilant, à même s'il faisait frais, bien faire attention à beaucoup boire.
À s'alimenter correctement, ouais. Je me retourne vers Gédéon Pochat, donc je le disais tout à l'heure en présentation, un peu ski alpiniste, un peu trailer. Aujourd'hui blessé malheureusement, tu n'as pas pu participer à la course, tu as suivi la course pour suivre Anthony Felbert qu'on va présenter tout à l'heure et qui viendra nous raconter son aventure aujourd'hui. Tu as trouvé la course comment toi en tant que suiveur ?
Eh bah, c'est exactement ça, aujourd'hui j'avais la casquette supporter. Mmh. Et c'était super intéressant parce que... vu que le parcours a changé, en fin de compte, les athlètes, ils apprennent ça au dernier moment. Le parcours, il change, la météo...
Il a changé beaucoup ?
Ouais, quand même. C'est plus le même profil. Je pense que ça a encore plus avantagé Jim,
okay,
qui court surtout sur la partie finale. Ouais. Parce que là, la partie finale, ils finissent avec 9 km de faux plat descendant. Et en fin de compte, c'est où on a vu que Jim s'est fait dépasser. C'est au dernier ravito. Il ne fait pas de ravito. Il se fait doubler par l'Italien. Et il le rattrape dans les deux derniers kilomètres.
D'accord.
Et
sans ça, la course aurait pu être différente.
Ouais.
D'accord. Pour revenir à ton cas personnel, donc blessure au métatarse, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Petite inflammation de l'articulation. Et vu que j'ai pas pu bien m'entraîner en fait les trois dernières semaines, j'ai préféré pas prendre mon dossard parce que soit c'est pour aggraver la blessure, soit sinon traîner ça encore derrière alors qu'il y a d'autres courses et puis on a le temps quoi.
Là, je vois Major qui acquiesce de la tête. Là, c'est le bon choix. Quand on est blessé, on ne participe pas à un ultra ou on ne prend pas le risque si jamais il y a un risque.
C'est là où j'apprécie vraiment l'expertise de chaque coureur. C'est qu'ils savent très bien écouter leur corps. Ils savent analyser, pas tous, mais à ce niveau-là, ils savent le faire. Ils savent analyser là où ils en sont de leur saison et privilégier les bons choix au bon moment. De savoir dire non à un dossard pour pouvoir privilégier une meilleure fin de saison, c'est stratégiquement hyper malin. Ouais. Le cas de Gédéon, on en avait parlé en off. Je pense qu'il y a un truc à gratter qui peut être hyper intéressant. Tu l'as dit, il a un profil mixte. Donc il fait du ski, de l'alpi. Ce qui veut dire que pendant cette période-là, on n'a pas tout le travail de pied, qui n'est pas du tout sollicité. Et lorsqu'il reprend sa saison de trail, il y a d'autres sollicitations au niveau de l'avant-pied, peut-être des problèmes de vascularisation qui pourraient être liés à la chaussure. Et toutes ces données-là peuvent peut-être parfois...
Manque de mobilité de cheville.
Mobilité, activation, vascularisation, qui fait que le changement de contrainte, même chez des sportifs très entraînés compte tenu du volume d'entraînement très important, peut-être que les structures n'ont pas réussi à encaisser ces petits changements d'intersaison.
Beaucoup de trailers, notamment ceux qui font des ultras, qui font tout leur travail de fond à ski, en ski de randonnée l'hiver, en ski alpin plus précisément, et qui sont effectivement confrontés à ce problème à la reprise parce qu'ils n'ont pas du tout fait de course à pied durant l'hiver. Et c'est vraiment à la reprise, souvent en mars, avril, qu'il y a les risques de blessures qui sont souvent les plus fréquents. Et je pense notamment aux fractures de fatigue ou alors aux tendinopathies. Et du coup, bah, effectivement, le fait d'avoir éludé la course à pied pendant tous ces mois-ci, ça, bah, on, les muscles, les os se désadaptent. Ouais. Et du coup, c'est vraiment dangereux à la reprise.
Et là, quelle routine tu conseillerais de mettre en place pour les coureurs qui justement vont sur des sports portés pour éviter les chocs quand ils vont reprendre cette pratique ?
Alors, je vais faire peut-être la différence entre les coureurs professionnels comme vous, vraiment ceux qui sont au top du top. Il y a un tel volume d'entraînement qui fait que je pense qu'ils sont plus à même que moi pour répondre sur leur routine. Mais pour les coureurs plus amateurs, je crois qu'une bonne idée, c'est d'essayer quand même, pendant la saison d'hiver, de garder du kilométrage de course, même si c'est sur différentes structures, différents terrains, mais de garder des contraintes de course à pied pour ne pas repartir de zéro à chaque mi-saison.
Toi, Gédéon, c'est ça qui t'a manqué, par exemple, cet hiver, tu penses ?
Justement, cet hiver, c'est la première année où je remettais ça en place, de faire quelques séances sur tapis ou des petits footings pour reprendre, justement, parce que souvent, la reprise était compliquée. De passer vraiment du trail au ski, ça passe sans problème, mais l'inverse. Musculairement, on n'est pas du tout prêt. Et le truc, c'est que tu sors de ta saison d'hiver, tu es en forme, physiquement, tu es là. Mmh. Et donc, tu pars courir et tu te dis ok, allez, je m'écoute, je reprends tranquillement, je vais courir que 30 minutes. Mais en fait, au lieu d'aller courir 30 minutes à 12 à l'heure, tu vas aller courir 30 minutes à 15 à l'heure parce que t'es en forme, le sens pas.
Oui.
Sauf que musculairement et articulairement, ton corps n'est pas prêt pour supporter un 15 à l'heure pendant une demi-heure, quoi.
Parce que de ton côté, la prépa s'était plutôt bien passée. Tu restais sur une victoire au Mille X Trail de Courchevel, je crois, c'est ça, en juillet. Donc, tu étais quand même... tous les voyants étaient au vert jusqu'à cette
C'est suite au millet, en fait. J'étais en stage avec l'équipe de France de ski alpi juste avant, la semaine d'avant. J'ai enchaîné avec la course et ça a fait peut-être un trop gros bloc. Et ça a créé un peu des sollicitations et du coup, ça génère une contrainte.
Parce que vous roulez beaucoup aussi en plus avec l'équipe de France, non ? Vous faites plus de sport porté en plus que de course à pied.
On va faire plus de la rando, marche et courir et vélo, mais on mixe les sports parce qu'il y en a, vu qu'ils courent pas suffisamment, c'est dans la prépa, c'est pas possible pour eux d'aller courir, quoi.
Et t'as évoqué le fait que t'aies fait pas mal de tapis. Ça, c'était nouveau pour toi ou pas ?
C'était nouveau. Après, c'est pas mal. C'est une séance par semaine de 45 minutes. Mais je pense que ça, justement, ça m'a aidé à reprendre plus facilement à la sortie de l'hiver. Parce que d'habitude, j'avais tendance à faire un peu de synovie dans les genoux, à avoir vraiment du mal à reprendre. Et là, cette année-là, la reprise s'est plutôt bien passée. Ouais.
Du coup, Clovis, quels sont tes prochains objectifs là ? C'est de récupérer dans un premier temps tranquillement. Là, on t'a vraiment pris au vol. Hein. T'es arrivé il y a un quart d'heure, t'es encore en tenue. Les chaussures sont sales, gribouillées de partout.
Du coup, ça va être de récupérer. Je m'étais laissé la possibilité de terminer ma saison sur l'OCC si ça se passait bien. Parce que c'est vrai que cette saison-là, je voulais vraiment la prendre pour me refaire un peu la frite. Parce que la saison dernière, ça n'avait pas forcément été l'Amérique. Et je voulais vraiment essayer de repartir du bon pied, me mettre deux gros objectifs dans la saison 2025 et essayer de les réussir. Donc là, c'est chose faite. Avec l'autre course en Italie qui s'était super bien passée.
C'était la Monte Rosa
by UTMB, exactement.
Deuxième
derrière Monsieur Minoggio, là, notre très cher Italien.
C'était la première fois que tu faisais un effort aussi long de plus de 10 heures
Non, c'était pas la première fois. En revanche, c'est la première fois que je le faisais et que j'arrivais à fournir un effort plein. Parce que j'ai essayé de mettre des choses en place niveau hydratation, nutrition, parce que moi, c'était vraiment ça un peu ma bête noire et ça a plutôt bien marché. Et ça a été vraiment la première course de 100 km qui s'est très bien passée.
Ça, c'est quelque chose que tu dois voir fréquemment chez les coureurs, c'est-à-dire l'augmentation de la distance un peu trop rapidement et de ne pas respecter justement ces étapes. Je veux dire, un coureur qui va passer d'un 10 à un ultra alors qu'il commence juste la course à pied, c'est le grand écart, quoi.
Ouais, c'est le critère numéro 1 de source de blessure, hein. J'ai fait trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure qui n'était pas prête à encaisser aussi vite, aussi fort, aussi longtemps. C'est rigolo, Clovis, en t'écoutant parler, t'as commencé l'interview en disant « Moi, les 50K, c'est vraiment là où je m'éclate. » Et moi, je me posais un peu cette question. Comment t'as su que c'était les 50K sur lesquels tu t'éclatais ? Est-ce que ça veut dire que t'es passé à du 100 et t'es redescendu derrière ? Finalement, être capable de monter, c'est une chose, mais être capable de redescendre, c'en est une autre.
C'est ça. Et en fait, moi, avec le peu d'expérience, hein, je me rends compte que le trot, c'est pas forcément le mieux. Faut vraiment trouver le format qui te plaît le plus. Et moi, en l'occurrence, tout ce qui va se trouver entre 50 et 100 km, je me trouve à... Enfin,
tu te connais, ouais.
Et je me régale, en fait. C'est une intensité d'effort à laquelle j'arrive à profiter du paysage, à aussi donner, être généreux dans l'effort. Alors que sur du plus long, j'en suis encore à un stade où je souffre trop et... du bien plus long et où je trouve pas forcément d'intérêt à y aller, quoi. Donc l'idée de effectivement faire un 100K pour peut-être aller découvrir et se rendre compte que ça nous plaît pas, c'est une possibilité. Il faut aussi s'autoriser parfois à revenir sur des formats peut-être un peu plus courts qui sont plus raisonnables et qui peuvent mieux nous convenir. Ouais.
Tu vois, pour te répondre, pour te répondre un ordre d'idée, j'ai entendu Blaise Dubois dire ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. On lui a posé la question, au bout de combien de temps pour un coureur débutant, je vais prendre la piste parce qu'on enlève la partie trail qui rajoute beaucoup de paramètres. Au bout de combien de temps de début de course à pied, tu conseilles de faire ton premier marathon ? Il a dit 3 ans.
3 ans.
Tu vois, pour faire un 0,42.
Alors qu'aujourd'hui, si tu prends les coureurs lambda, on le voit au marathon de Paris...
Ils ont parfois 3 mois, 6 mois de running dans les pattes, quoi.
Exactement, Et encore... Pour ceux qui se préparent, il y en a beaucoup qui ont tapé dans les mains du collègue le 31 décembre à 23h58 et qui se retrouvent le 7 avril sur la ligne de départ et qui vont voir Major Mouvement, exactement. C'est sûr que ton contenu est là pour ça aussi, c'est pour éduquer les gens, faire de la prévention, parce que justement il y en a besoin, parce qu'il y a cette folie, cet engouement pour le running qu'on voit depuis quelques années, et le côté un peu méfaste, c'est que les gens veulent aller
faire comme tout le monde, aller trop vite, trop haut. Et du coup, bah derrière, c'est la blessure.
Ouais. Exactement, il y a deux erreurs. C'est qu'il y a, quand on vous voit, une forme de banalisation des distances que vous faites.
Ouais. Complètement.
Et en fait, les gens ne se rendent pas compte tant qu'ils l'ont pas fait que en fait, 20K, c'est 20K, 40K, c'est 40K, 2500 de D+, et 2500 de D+.
Tu peux parler de ton cas personnel.
Moi, la MCC, ça a été un plaisir incroyable parce que la course, c'est dingue, mais physiquement, j'en ai chié du début à la fin parce que... Parce que peut-être un défaut d'entraînement, mais ça fait longtemps que je cours. Ça, je suis à ma cinquième année aujourd'hui de running et de trail. Je suis bien entraîné, je fais de la prépa physique tout le temps et en permanence. Je connais les signaux de mon corps, c'est-à-dire que typiquement, j'aurais pu prendre la même décision. Il va venir tout à l'heure sur le plateau.
Anthony,
merci. De s'arrêter.
Ouais.
Et ça, moi, je sais très bien que quand je cours, je sais écouter les signaux. Je sais, typiquement, un truc qui est très simple, la sensation, c'est un des meilleurs moyens de savoir quand il faut arrêter. Blaise Dubois est juste derrière, il peut en parler. Quand on dépasse du 3 à 4 sur 10 de douleur, c'est là où il faut se poser des questions. Si on est sur de la douleur aiguë, c'est là où il faut se poser des questions. Et être malin, c'est être capable de s'arrêter parfois et laisser tomber une ligne d'arrivée.
Oui, et puis dès qu'il y a une douleur fonctionnelle, une boiterie, un changement de foulée, là, faut dire stop.
Et je crois que c'est ce qui fait la différence finalement entre les sportifs professionnels et les amateurs. C'est ceux qui sont capables de laisser leur ego de côté, s'arrêter quand il faut s'arrêter.
Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un bon conseil qu'on peut donner aux amateurs parce que ils veulent des fois être finishers à tout prix et c'est pas leur rendre service pour plus tard. C'est-à-dire que il faut voir notre santé, notre physique, notre carrière sportive plus ou moins sur le long terme et pas se dire je dois finir cette année. Bah si c'est un échec, c'est pas grave. Il faut savoir mettre son ego de côté pour revenir l'année prochaine. Ouais.
Exactement.
Donc 7h26 de course et on m'a dit un petit arrêt à 400 mètres de l'arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Donc la course a été difficile
tout le long.
Et dans les trois derniers kilomètres, je me suis senti pousser des ailes. D'accord. J'étais léger. J'étais
bien.
Tu t'es
dit c'est bon, je vais le faire. Je vais le faire.
Là, je commence à dérouler. On m'avait dit si jamais tu te sens bien, tu peux dérouler. Alors j'ai déroulé. Et sur les 500 derniers mètres, pris par l'émotion, j'ai sprinté. Et là, à 200 mètres d'ici, entre le D4 et l'Intersport, j'ai senti mon estomac qui, lui, voulait s'arrêter.
Ah, c'est dingue, ça.
Et avec le peu de dignité qui me restait, j'ai rendu à peu près tout mon ravito.
Ah, le dernier ravito,
la totale, sur un énorme vomi, une énorme galette.
Ok.
J'ai réussi à viser quand même dans une petite bouche d'égout.
Ah, pour les suivants derrière, t'as pas fait le salon.
Exactement.
Ah ouais.
Et je me vois arriver et j'entends les gens crier mon nom. Grégoire. Et quand j'ai commencé à vomir, ils ont arrêté de crier mon nom. Ils ont regardé ailleurs, c'était gênant au possible.
D'accord.
Et surtout, je me suis dit, est-ce que je la tiens, la galette, jusqu'à l'arche et la faire sur le tapis?
Ah oui, ça aurait été encore plus beau.
Et là, je me suis dit, il y aura beaucoup, beaucoup plus de monde.
En plus, le tapis est glissant déjà.
Et le tapis est glissant. Et je me suis dit, pour les mecs qui vont arriver derrière,
ils vont s'allonger dedans, éviter un vomi.
Je voudrais pas être le mec qui a vomi sur le tapis, du coup je l'ai lâché un peu avant.
Ah bah bravo.
Mais j'en suis très
fier de fair play.
Et donc ça fait 3 jours que quand les gens me croisent,
tout le monde t'en parle.
Une personne sur deux qui me dit hey, salut la galette.
Ah bah, voilà. Je veux pas trahir de secret, mais c'est l'info qu'on m'a dit dès que je suis arrivé ici à Chamonix. On m'a dit tu vas faire majeur, il faut que tu lui parles de ça. Voilà, j'ai débarqué ici. C'est le buzz du week-end. Bon Clovis, je vais te remercier, merci pour tout, bravo pour ta 19e place.
Merci.
Bravo, félicitations, tu peux récupérer l'esprit tranquille et repartir l'année prochaine sur des nouveaux objectifs, ça sera quoi?
C'est vrai que là, on va peut-être pas parler de progressivité tout de suite, mais la TDS, elle me fait vraiment bien envie là.
Bon, il n'y a rien écouté, on te réinvitera sur le podcast quand tu viendras nous parler de tes blessures. Allez, ça marche. Bon, en tout cas, on te souhaite bonne chance.
Ouais,
et
merci.
Bonne chance à toi et félicitations encore.
Merci, bravo. Bonne continuation, salut.
Salut,
bravo.
Ciao, bravo.
Ciao.
Du coup, on va recevoir Anthony Felberg. Bah alors, raconte-nous un petit peu, difficile.
Ouais, pas le scénario souhaité.
Le scénario voulu.
Après,
ouais.
C'est ça aussi la beauté du sport de haut niveau, je pense, parce que si on savait ce qui se passait avant de partir sur une course, ça serait pas aussi cool. Donc voilà, ce qu'il faut juste, c'est bien ce genre d'expérience où c'est important d'en tirer des conséquences et de voir qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la suite.
Ouais. Qu'est-ce que tu abandonnes au combien là?
Alors j'ai abandonné au kilomètre 32, donc à la mi-course.
Ouais, mi-course.
Mais j'avais pris la décision dans une demi-heure avant dans la montée qui précédait.
D'accord.
En fait j'étais parti de manière très prudente dans mes allures
temps,
visées,
vraiment
ça allait super bien. Et je pense que je me suis un peu enflammé dans la descente qui suivait.
Ok.
Parce que du coup j'étais tout seul derrière et.
Ouais, t'étais dans les 20 à peu près, 20e.
J'étais 23 je crois, de la bosse.
C'est ça, ce qu'on suivait, ouais.
Et en fait dans la descente du coup il y avait pas. Le groupe était plus loin devant, du coup j'ai déroulé, je me suis fait un peu plaisir, c'est une descente sympa. en pensant être en full contrôle, mais je pense que du coup j'ai un peu tapé dans les muscles à cet endroit-là.
Ouais.
Et aussi c'était très humide aujourd'hui.
Oui.
Donc on s'en rend pas compte, mais on se déshydrate encore plus quand il fait chaud.
C'est ce que disait Clovis, ouais, qu'il a, il a beaucoup bu alors que effectivement on pourrait penser qu'il fait relativement frais et qu'il pleut.
Exactement. Et puis on voit le maillot mouillé, on dit c'est la pluie en fait. Non, c'est aussi une partie de nous, exactement. Donc du coup ben j'ai pas assez bu sur cette partie, je pense, avec plus d'énergie mise que prévu.
Ok.
Et ce qui fait que quand je suis arrivé à Martigny, où je pensais pouvoir, bah là, dans une grosse montée, moi j'adore ça,
ouais,
j'allais pouvoir dérouler. Mais en fait, les gens ne m'ont pas du tout répondu et je commence à avoir des débuts de crampes au quadri,
okay,
ce qui m'arrive très rarement. Et là, je me suis dit, bah, wow, ça va être long, il y a une montée de quasiment 1800 mètres de dénivelé.
Ouais.
Je la connais parfaitement, du coup, je me suis dit, oh punaise.
Tu savais ce qui te restait, ouais.
C'était... Et puis je savais que bah, ma course était foirée parce que c'est, ça reste, vu les allures des premiers. Oui. C'est impossible de remonter.
De remonter, ouais. Non, d'aller chercher le top 10, c'était compliqué.
Donc voilà, et là, du coup, je me suis dit, bah, j'ai tenté pendant un quart d'heure de continuer, puis j'ai vu que ça allait pas mieux. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que pour l'événement, pour les supporters qui sont là, je fais quoi? Je termine? Parce que du coup, bah, c'est trop cool quand même, ça fait l'expérience. Mais en même temps, moi, j'ai une démarche professionnelle, et du coup, bah, c'est 60 kills, donc si je termine dans la souffrance, ça veut dire qu'après, je vais mettre quoi? 2-3 semaines à m'en remettre?
Ouais, minimum, non? Je me tourne autour de Major, mais c'est vrai que quand tu termines 30 bornes dans le dur avec des débuts de crampes au 32e, ça peut l'addition peut être salée avec des risques de déchirure.
Et surtout des expositions à des surblessures, ouais, parce que tu vas changer ta technique de course, tu vas changer ta foulée, tu vas mais du coup mettre des contraintes. Tu vas peut-être mettre des contraintes mécaniques sur d'autres structures, les sacroiliacs au-dessus, ça peut être plus sur les chevilles, et tu vas du coup parfois décaler une blessure que tu n'avais jamais eue avant.
Ouais,
et c'est l'histoire typique, tu sais, de gens qui vont te dire « J'ai eu ça qui s'est passé en course, j'ai compensé, et depuis je m'en sors pas d'une autre blessure qui me gâche la vie. » Et c'est cette addition qui peut être dure à sortir.
Toi, Gédéon, en tant que suiveur, t'as senti derrière que c'était compliqué, c'était dur?
Bah, j'ai vu Anto, justement, je l'ai vu à Champé, et je l'ai vu passer, et je lui ai dit, bah, mec, tranquille, t'es bien, il était vers la 25e place, on a parlé, il était frais, il était lucide, et ce que je lui ai dit, devant, c'est parti méga vite, il y en a plein qui vont sauter. Et il était nickel, et après, je l'ai pas revu avant le moment où il a abandonné. Mais ces courses, il y a un tel plateau et tellement de monde, que tu sais que devant t'as 50% qui saute, sauf que si t'es dans un grand jour
tu peux t'accrocher
quoi, mais t'es obligé en fait, t'es
tout
obligé
le monde
de jouer
est obligé de partir vite, tout le monde joue, et c'est vrai que bah on le voit avec Jim est parti vite, et Jim a un tel niveau que bah derrière ça crée une espèce d'émulation, un engouement, tout le monde s'accroche, donc effectivement c'est compliqué,
parce que la course parfaite c'est celle où tu vas garder la même allure tout du long, mais il y a des faits de course qui font qu'à des moments t'es obligé de prendre une décision de est-ce que je suis pas un peu ceux de devant ou pas, parce que quand t'es en descente, il disait qu'il est revenu en déroulant, il s'est pas rendu compte. Mais s'il avait été peut-être un peu plus avec le groupe de devant, tu fournis moins d'efforts
pour coller.
Et c'est ça qui est délicat, c'est d'essayer de gérer la course parfaite, de partir à son allure sans forcer pour qu'il puisse revenir derrière. Ouais. Et c'est, je pense, j'aurais essayé de faire le même type de course que toi, c'est gérer l'effort au départ. Sauf qu'en fin de compte, tu te retrouves à fournir un effort
au mauvais moment,
qui n'est pas forcément le mieux. Ouais.
Parce que là, est-ce que dans son cas, est-ce que c'est musculairement ou justement cet effort dans la descente, c'est difficile à dire.
C'est plus à lui de répondre, je pense.
Ouais, je pense que c'est vraiment. Malheureusement, on n'arrive jamais à savoir exactement quelle était la cause. Après, je sais que là, je vais faire un vrai débrief en analysant mes données cardiaques, un peu les données de la course, les allures, pour voir est-ce que c'est uniquement ça. Ou est-ce que c'est aussi un effet de déshydratation?
De déshydratation liée au ravitaillement.
Exactement, ou juste d'une énergie un peu moins forte au départ que pensé.
Ouais.
Avec une fatigue de la semaine, c'est un cumul. Et le but, c'est maintenant de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé.
Bah, ça, c'est un débrief qu'il faut faire à froid avec le coach et en analysant tout
Et pour le coup, par rapport à ça, justement, moi, je l'ai même appelé dans la montée avant de prendre ma décision.
Ouais.
Parce que j'avais besoin aussi d'un avis extérieur en mode, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est mieux que... je m'arrête là et comme ça je pense déjà à faire une course dans 1, 2, 3 semaines selon le calendrier. Ou est-ce que pour l'expérience je continue? Parce que après je ferai du plus long et au moins ça permettra de voir et ça va peut-être revenir.
Ouais, c'est jamais un choix facile, mais c'est vrai que quand t'es sportif professionnel, t'as des contraintes liées à tes sponsors, mais t'as aussi tu te dois d'être performant. Aujourd'hui t'es passé, ça l'a pas fait, t'as abandonné au bon moment je pense pour pas créer justement les blessures qu'on disait, les adaptations, donc tu vas pouvoir rebondir sur un autre objectif et ça c'est quand même un mal pour un bien quoi.
Oui, exactement, surtout qu'en fait c'est aussi pour ça que j'ai abandonné, parce que normalement j'avais qu'une course après en fin de saison, qui est un 80 km au Templier en octobre.
En octobre
j'ai jamais fait cette distance, et je veux pas y arriver en ayant fait un DNF avant. Ouais. Juste aussi pour la tête.
Toi, Major, c'est quoi les blessures que tu vois le plus souvent après des ultras comme ça de 50, 60, 180? C'est des blessures musculaires, des débuts de...
Alors, sur les patients qui vont faire ces distances, ça reste quand même des gens assez aguerris. Ouais. C'est-à-dire que les blessures des débutants, les syndromes rotuliens, c'est
de l'essuie-glace, périostite, ils n'existent pas. Plus.
Chez eux, on va avoir quand même de la périostite, et après, on va avoir plutôt des œdèmes interosseux, on va avoir plutôt parfois des fractures de fatigue,
de stress,
ou des fractures du sacrum. Ça, c'est un truc qui est assez typique du coureur de très longue distance. Trail. Qui sont des blessures spécifiques de ce type de distance-là. Et là où c'est très très chiant à gérer, c'est que la plupart du temps, sur beaucoup de blessures type tendinite, on peut quand même garder un volume d'entraînement, on peut adapter. Sur de la fracture, sur de l'œdème, la plupart du temps, malheureusement, la meilleure solution, et ça me tue de le dire, c'est le repos.
C'est le repos.
Et ça me fait vraiment chier de le dire, croyez-moi. Après, il y a toute la gestion de comment on travaille l'aspect mental là-dedans, parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour les trailers. Certains, ils sont plus ou moins... hermétique ou plus ou moins ouvert. Ma phrase est mal construite, mais vous avez compris l'idée. Et de savoir à quel point ça rentre dans ta tête ou dans quel point tu es capable de te dire voilà, je prends 3 mois de repos pour repartir plus fort.
Ah, c'est ça qui est compliqué. Surtout que là, on a 2 profils avec un athlète qui était sur des sports portés, ski alpinisme, et qui s'est blessé sur une phase de reprise. Et un athlète qui, là, musculairement, est peut-être un petit peu haché, qui va devoir aller sur des sports portés. Donc c'est un équilibre, en gros, à trouver entre la contrainte qu'on met en course à pied et le volume qu'on doit maintenir pour maintenir son niveau de cardio, d'endurance.
C'est ça, mais dans les deux cas, tu vois, on a Eanto et Gédéon qui sont malins. Gédéon, il se dit, en fait, là, je suis pas apte, j'y vais pas. Et Eanto, il y a un truc qui est assez spécifique, c'est que sur les crampes, on sait pas exactement, c'est chiant. On est en 2025,
et
on sait pas exactement ce qui cause les crampes. Par contre, on sait un truc, c'est que quand t'as tendance à cramper, t'es plus prédisposé à avoir des crampes. Donc là, dans les conditions physiques qu'il a ressenties, il a mieux fait de s'arrêter, parce que demain, quand il y sera de nouveau exposé, un peu sa jauge de possibilité d'en avoir
aura augmenté.
Ouais.
C'est quelque chose d'assez régulier chez toi ou c'est vraiment nouveau là ?
Non, ça m'arrive de temps en temps. Après, généralement, c'est plutôt au mollet, parce que avec des efforts un peu trop, on va dire, poussifs
en montée.
Mais c'est intéressant parce que je savais pas que le corps justement avait un peu cette mauvaise tendance à se rapper de ça et à l'accentuer. Ouais.
Du corps,
je saurais pas vous dire. C'est le seul truc qu'on ait vraiment de valider sur les crampes, c'est les gens qui ont tendance à cramper ont plus tendance à cramper. C'est un peu naze comme info. Le seul truc qu'on ait
à peu près. C'est réconfortant pour
c'est
la
un
suite.
Entraînement à la crampe.
Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc aller chercher dans les crampes, c'est pas l'idée.
C'est pas l'idéal. Ouais. Gédéon, ça va. Du coup, tu vas rebondir sur quoi là? C'est quoi les prochains objectifs?
Je pense que je vais aller au Templier.
Ok. Aussi.
Ouais. Mais par contre, je ferai le format 40. Je reste sur du plus court. Parce que dès décembre, en fait, j'ai la première Coupe du Monde de ski alpin.
Ouais, donc ça repart. Pas donc, finir rincé.
Non. Le but, c'est de refaire un truc un peu plus long à pied. Et puis après, on enchaîne sur le ski. Donc ça suffira.
Ok. Pas de kilomètre vertical.
Si.
Ça, c'est ton kiff.
Ouais, c'est pas mal. Ça ressemble un peu, on va dire, au format de course de l'hiver, des trucs assez courts. C'est une demi-heure d'effort.
Assez intense.
T'as pas à réfléchir et puis.
C'est à balle.
Ouais, tu pars quasi à bloc et t'arrives à bloc et c'est fini. Tu rentres chez toi et t'as pas mal aux jambes le lendemain. C'est ça qui est bien.
C'est vrai que t'as pas mal aux jambes le lendemain ?
Non, vraiment.
Ouais, tu redescends pas. C'est vrai que moi je vous ferais la descente dans le même.
La descente était dans la course, on serait complètement détruits. Mais c'est quand t'es préparé musculairement à faire un effort intense, et vu que c'est que de la montée, en fait ça te fait même une super séance d'entraînement. Des fois, ça m'arrive d'aller faire une course en semaine parce que ça te fait une séance d'entraînement.
Une vraie sortie d'entraînement,
ouais.
Comme une séance de fractionné que tu pourrais faire.
C'est exactement ça. Et vu que c'est en côte, il n'y a presque pas d'impact. Et vu que la descente, tu l'as fait tranquille, ça te fait bosser le cardio et c'est nickel. Okay. Et tu as fait une course et tu t'es amusé.
Et en termes de renforcement, on est sur les mêmes pratiques de renfo pour quelqu'un qui va faire du kilomètre vertical où il va y avoir que de la montée et qui va pas faire de descente, ou il doit aussi travailler différemment pour quand il va aller sur les Templiers ou autre.
Les contraintes sont quand même très très différentes. Le kilomètre vertical, c'est très court, on va beaucoup plus être sur des chaînes de vitesse, sur les ischios, sur les grands fessiers. En termes d'effort cardio, c'est pas du tout pareil, on est plutôt sur de la force, de l'explosivité et de la résistance. On peut jamais se tromper à se renforcer. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui serait pas entraîné, de vouloir jouer sur deux tableaux, c'est comme vouloir faire du rallye avec une Formule 1, quoi.
C'est pas...
Pour te donner un ordre d'idée, faut être très polyvalent pour faire les deux.
Bon, alors l'année prochaine, si tu reviens sur l'UTMB, faudra que tu sois prêt musculairement, ok ?
Il n'y aura pas de souci.
C'est bon, tu suivras les vidéos de Major.
On fait comme ça.
Ok, ça marche. Major, l'année prochaine, tu reviens ou pas?
Ah, moi, je reviens l'année prochaine. L'année prochaine, je reviens préparé, entraîné. Ouais. Et mon prochain objectif, c'est le marathon de New York.
Ah ouais.
Que je vais courir avec Dorian. Un rêve de gosse.
Magnifique.
Donc, je suis hyper heureux d'y aller. Et je vais essayer de faire honneur à la discipline.
Bah magnifique. Tu penses que la galette c'est quoi? C'est lié à ravitaillement qui était trop proche, trop
l'émotion.
Frais. L'émotion.
L'émotion. Non, mais quand vraiment, je suis content, je
vomis. Il faut avoir la ref pour connaître ça. Il faut être né dans les années 80-90. Bon ben félicitations, bon marathon à toi.
Merci.
Anthony, qu'est-ce qu'on te souhaite de bien te rétablir et d'être fort au Templier?
Ouais, bah je pense qu'en vrai dans deux jours c'est bon. Hein. Aujourd'hui ça m'a fait une bonne séance d'entraînement, donc j'aimerais bien remettre un dossard avant les Templiers justement. Histoire de retrouver plaisir. Sur une course plus petite pour après foncer et prendre ma revanche dans un mois et demi.
Ok, en tout cas on te remercie d'être venu nous voir pour nous débriefer ça, parce qu'effectivement c'est jamais facile après un objectif loupé et de venir s'exprimer et de s'expliquer et de nous raconter un peu tes déboires. Bravo à toi, parce que c'était pas évident. Ouais.
Bah merci, non c'est sûr c'est pas ce que je voulais de base, mais ça fait aussi du bien d'en parler, et puis ça me permet de... Bah directement d'acter ça, on va dire, et de penser à autre chose.
De fermer, Majeur il t'a donné les conseils, c'est bon, t'as plus qu'à repartir.
T'auras plus de crampes après.
C'est reparti.
Voilà, ben merci à tous les trois.
Ben merci à toi.
Merci. Et puis on se revoit l'année prochaine, je pense. Hein.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Et ben je vous souhaite une bonne journée et à très vite sur les podcasts RMC Running.
RMC Running.